Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Il y a un an, quasiment jour pour jour, des centaines de jeunes issus du monde entier étaient rassemblés au Palais des Nations. Ils participaient au premier dialogue organisé dans le cadre du 75e anniversaire des Nations Unies. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait décidé à l'occasion de cet anniversaire d'organiser une vaste consultation mondiale sur l'avenir du monde que nous voulons. Tout au long de l'année 2020 et malgré la Covid-19, c'est plus d'1,5 million de personnes issues de 195 pays qui ont participé à cette consultation inédite. L'heure est maintenant de tirer les enseignements. Force est de constater que la pandémie a fait évoluer les résultats du sondage au cours de l'année. Alors que la Covid-19 a creusé les inégalités, beaucoup ont donné la priorité à court terme à l'accès aux services de base et aux soins de santé pour tous. Le sondage met aussi en avant l'importance donnée par les citoyens aux questions d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que le besoin d'une approche multilatérale pour faire face aux crises globales. Pour évoquer les résultats de cette consultation et tirer le bilan de ce 75e anniversaire, qui s'est déroulé dans un contexte inédit, j'ai le plaisir de recevoir Fabrizio Hochschild, secrétaire général adjoint des Nations Unies et conseiller spécial du secrétaire général pour les préparatifs de la célébration de cet anniversaire. C'est notre invité de la semaine. Fabrizio Hochschild, bonjour.
Bonjour, c'est un grand plaisir d'être chez vous.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais dans l'introduction, il y a un an, quasiment jour pour jour, vous étiez ici au Palais des Nations pour lancer le premier dialogue à l'occasion du 75e anniversaire avec des jeunes issus du monde entier. À l'époque, on n'imaginait absolument pas ce qu'allait nous réserver 2020. Avec la pandémie, j'imagine que vous avez dû revoir toute l'organisation des événements prévus à l'occasion de cet anniversaire. Ça a été un énorme défi pour vous.
Oui, vous avez raison. Une année avant, c'est un autre monde, une autre époque. Maintenant, ça paraît très loin, beaucoup plus qu'une année. On a fait une grande adaptation dans deux sens. Première, toute la nécessité, comme tout le monde, de travailler de manière éloignée, de travailler par digital, mais aussi le changement dans le projet. L'essence du projet, c'était d'avoir des conversations en personne, surtout avec les jeunes. Donc, on a monté toute la méthodologie, tous les mécanismes pour promouvoir des conversations en personne. Et on a eu la nécessité de faire le changement de manière digitale. Ça, c'était un grand défi, mais le plus grand défi, c'est de s'assurer que les gens qui n'ont pas une connexion digitale ont aussi la possibilité de participer. Et là, on a cherché des centaines de milliers de volontés dans les pays les plus pauvres pour aller parler avec des distances, pour avoir des réponses des gens qui n'ont pas le privilège d'une connexion. Donc, c'était une grande adaptation et on n'a pas eu le privilège d'avoir beaucoup de temps parce que quand même, à différence des autres projets de l'ONU, l'anniversaire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ralentir, en tout cas dans cette année.
C'est ça, malgré tout, le défi a été relevé. Vous avez pu rencontrer, discuter en tout cas avec l'ensemble des populations de la planète.
On a quand même réussi à avoir un contact direct et des réponses directes des au moins 1,5 million de personnes dans tous les pays entiers. La plupart d'eux, des personnes jeunes. Donc, je crois qu'on a réussi à avoir de participation de toutes les régions du monde et des gens qui représentent tout type de niveau d'éducation, tout type d'adhération à de différents partis politiques. Donc, on a réussi quand même à avoir une participation très représentative de tout le monde.
Fabrizio Hochschild, si on devait trouver un point positif à cette pandémie, ne serait-ce pas qu'elle a montré de manière criante la nécessité du multilatéralisme et d'un renforcement de la coopération internationale pour faire face justement à de graves crises mondiales comme celles que nous vivons?
Oui. Avant cette crise, je crois que pour beaucoup de monde, l'idée du multilatéralisme était quelque chose d'assez académique, assez intellectuel. Maintenant, grâce à cette terrible pandémie, on sait que le multilatéralisme sauve la vie et quand il y a un manque de multilatéralisme, on perd de vie. Et ça, on a appris, ou les gens l'ont appris, grâce à cette pandémie, à la mesure qu'il n'y avait pas une conscience avant. Il y avait, entre beaucoup de gens, conscience.
Vous avez vraiment senti la différence avec la population que vous avez rencontrée ou par rapport aux questionnaires qu'ils ont répondu, le fait qu'ils avaient pris vraiment conscience que le multilatéralisme est indispensable.
Oui, parce qu'on a commencé en janvier et la conscience de pandémie a vraiment pris force qu'en mars-avril. Donc on peut voir la différence entre les réponses à notre question entre les premiers mois de l'année et après. Et on a vu que l'appui à multilatéralisme a continuellement monté. Il y avait des sceptiques que nous avons dit, mais il ne faut pas faire l'enquête maintenant parce que les gens ont des autres problèmes. Ils pensent sur le COVID, ils pensent sur la santé. Ça, c'est trop abstract. Mais exactement au contraire, les gens vraiment ont pris conscience que même si on est en quarantaine, même si on est plus isolé que jamais avant, ils ont pris une plus grande conscience de la manière dans laquelle le monde est interconnecté, la manière dans laquelle nous sommes humains, au-delà des frontières interdépendantes, devant le numéro croissant de défis globaux qu'on peut résoudre que pour des coopérations internationales.
Alors, vous l'avez dit dans le questionnaire, il y a évidemment beaucoup de questions de l'accès aux soins de santé, etc. Mais un point qui revient régulièrement, c'est le problème des inégalités, qui fait que beaucoup de personnes, en raison de la pandémie, n'ont pas eu accès nécessairement aux soins de santé. Ça devrait être la priorité pour l'avenir ?
Oui, je dirais un de les deux ou trois plus grandes priorités. Et on peut revenir au sujet de ce qu'on fait à l'environnement et changement climatique. Pour moi, il y a beaucoup de statistiques qui sont sorties de COVID. Mais la juxtaposition de deux statistiques, pour moi, sont les plus effrayants, les plus frappants. On a un système économique que dans ces 10 mois de COVID a réussi à jeter 115 millions de personnes en pauvreté et en même temps d'augmenter la fortune de les gens plus riches pour 30%. Si on continue comme ça, ça va être une catastrophe. Et l'inégalité, ce n'est pas qu'un problème éthique, ce n'est pas qu'un problème moral. Le fait d'avoir d'inégalité produit des conflits, produit de violence, produit de manque de cohérence sociale. Donc c'est un mal beaucoup au-delà d'être un mal que moral.
Alors malgré ce contexte que vous décrivez, l'augmentation de la pauvreté, la pandémie, mais aussi les conflits, un chiffre interpellant, c'est que les répondants sont bien plus nombreux à imaginer un monde meilleur d'ici 2045 qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est surprenant cette situation, ces réponses et ce côté positif des répondants?
Ça, c'est grâce à la jeunesse. La jeunesse, ils ont beaucoup d'espoir, ils ont d'optimisme. Mais c'est un optimisme avec des yeux ouverts, ce n'est pas un optimisme naïf. Le grand défi, et ça aussi sorti de l'enquête, c'est donner beaucoup plus de voix, beaucoup plus de pouvoir de décision avec la jeunesse. Je crois que mon génération, ce qu'on laisse pour la jeunesse, ce n'est pas tellement meilleur. On laisse une planète avec plus que la moitié moins d'espèces naturelles. On laisse un monde avec le chauffement global et avec beaucoup d'insécurité politique et avec beaucoup d'insécurité en ce qui concerne le progrès. Donc, je crois que la dernière bonne chose que mon génération peut faire, c'est donner beaucoup plus de voix, beaucoup plus d'agence à la jeunesse.
Fabrice Rothschild, venons-en aux Nations Unies proprement dit. De nombreuses personnes interrogées souhaitent que l'ONU innove, soit plus inclusive, engagée, responsable et efficace. Elles demandent aussi davantage de participation citoyenne. Comment l'ONU va-t-elle prendre en compte ces demandes?
Le secrétaire général, avant septembre de cette année, va venir devant les chefs des États avec des recommandations très concrètes pour rénover, pour réimaginer, pour réinvigorer les Nations Unies. Mais le succès, on ne peut pas dépendre complètement d'un rapport de secrétaire général. Ce qu'il faut, c'est de volonté politique. Le changement, le vrai changement, passe quand il y a la volonté politique. Et là, je reviens à la jeunesse. On a vu que le changement dans des politiques climatiques, il existe grâce au activisme de la jeunesse. Donc, on va faire tout notre matériel public pour que on peut contribuer à construire cette volonté politique pour avoir les Nations Unies beaucoup plus adaptées à les défis d'aujourd'hui et les défis de demain.
Une toute dernière question, Fabrice Rothschild. C'est en fait finalement la question à laquelle a répondu tous les répondants au questionnaire. Comment imaginez-vous les Nations Unies dans les 25 années à venir ?
Première, je crois que ça doit être une Nations Unies vraiment concentrée sur le bien public global. Une Nations Unies qui se concentre, par exemple, sur le défi de nouvelles technologies. Le nouveau visage de les inégalités, c'est l'accès digital. Et le danger de la nouvelle technologie pour la paix, pour le bien-être, pour l'égalité. Ça, c'est un grand défi. L'autre grand défi, c'est le changement climatique. Les Nations Unies qui est beaucoup plus concentrée pour combattre le changement climatique et pour maintenir et améliorer la diversité biologique. Les Nations Unies qui comprennent beaucoup mieux que le conflit, ce n'est pas que le conflit entre les États, c'est aussi le conflit contre les femmes, contre les jeunes filles. C'est aussi plus en plus le conflit politique. C'est le conflit entre des bandes liées à des crimes organisés. Donc, les Nations Unies qui a une compréhension beaucoup plus différenciée de conflits. Les Nations Unies est plus reconnue, selon notre sondage, pour les droits humains. Donc, on doit, c'est difficile dans la réalité politique, mais on doit toujours combattre pour entendre que notre essence reste les droits humains. Et finalement, ça doit être une Nations Unies qui est plus effective et plus inclusive. Les pouvoirs ont changé dans les 75 années qu'on existe. Aujourd'hui, le pouvoir est beaucoup plus dispersé. Si on ne peut pas inclure beaucoup plus le secteur privé, les sociétés civiles, la jeunesse, les autorités locales, les représentants de grandes villes, les Nations Unies, que de diplomates, ne va pas être tellement relevante qu'on le besoin.
Fabrice Rothschild, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint des Nations Unies et conseiller spécial du secrétaire général pour les préparatifs de la célébration du 75e anniversaire de l'ONU. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.